Que peut la science pour la cité? Que peuvent les femmes pour la science?
France Inter, les savantes. Lorraine Bastide.
Bonjour et bienvenue dans Les Savantes. Je suis très heureuse de vous retrouver en compagnie d'une femme qui pense le monde d'aujourd'hui et qui a peut-être même l'intention de le changer. Aujourd'hui, mon invitée est sociologue. Bonjour Anan Karimi.
Bonjour Lorraine.
Anan, vous êtes sociologue, enseignante à l'Université de Strasbourg, post-doctorante à l'Université de Créteil et chercheuse associée au laboratoire SAGE, ça veut dire Société, Acteurs et Gouvernement en Europe, à l'Université de Strasbourg. Je suis très heureuse de vous recevoir dans Les Savantes aujourd'hui parce que votre travail portant sur les mobilisations politiques des femmes musulmanes est venu éclairer d'une lumière salutaire tout un pan d'une action politique qui, en France, vise sans relâche à les stigmatiser et à les exclure de l'espace public. Vous êtes une féministe, une militante, mais votre travail s'axe sur la recherche, sur la science. Car dans votre parcours personnel, c'est le savoir, c'est l'université qui vous a, vous le dites vous-même, sauvé. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de l'émission. Avant de commencer, Anan, je vais vous poser la question rituelle des savantes. Que peuvent les femmes pour la sociologie? Et je parle à quelqu'un qui s'est volontairement constitué un jury de thèse 100% féminin.
Mais c'est ça. Un jury 100% féminin, mais aussi un espace où les femmes, et en fait les femmes dans leur dimension minoritaire, hein, on dit souvent alors que c'est la moitié de l'humanité, mais que c'est une minorité, en tout cas c'est une altérité aussi, qui, si elle ne copie pas les codes du dominant, a des outils, a des ressources, peut-être une empathie, je dirais, qui permet de changer les choses. Et l'idée, ce n'est pas de reproduire le pouvoir tel qu'il est institué, le pouvoir qui est construit par et pour les hommes, mais un pouvoir nouveau, un pouvoir qui ouvre des horizons et qui part peut-être de cette position minoritaire qui est finalement, dans nos sociétés, une posture universaliste.
Ouais, c'est ça. Un pouvoir et un savoir aussi également.
Absolument.
Voilà, on aurait pu remplacer dans la phrase exactement « produire un savoir qui ne ressemble pas au savoir majoritaire ».
Mais je me souviens d'un médecin lors d'un colloque sur la mort, très très imbu de sa personne, qui me disait « Vous savez, madame, le savoir, c'est le pouvoir.
Ah, » voilà.
Voilà comment faire le lien entre les deux.
Exactement. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet immédiatement avec un petit extrait de l'émission « Les grosses têtes » sur RMC, datant de juin dernier. Oreilles sensibles, s'abstenir.
RMC, l'immanquable grande gueule.
Parler d'islam politique, mais clairement, on a des femmes qui sont ridicules. Je suis désolée, parler de discrimination, s'autoproclamer Rosa Parks du maillot de bain, enfin, je pense qu'il faut à un moment donné arrêter ce genre d'enjeu. Non, mais parce que concrètement, bon, je vais pas juger la cohérence spirituelle, mais vouloir couvrir son corps dans un lieu où la moitié des gens sont dénudés, bon, je pose la question. Mais au-delà de ça, il y a clairement quand même des règles d'hygiène, d'accord ? Aujourd'hui, si on demande à un homme de porter un slip de bain plutôt qu'un short de bain, oui, c'est qu'on a conscience que le tissu peut générer des problèmes d'hygiène. Donc c'est exactement le même cas pour le burkini.
Alors c'était un petit extrait de la polémique médiatique annuelle concernant le voile. Cette intervention, elle vous inspire quoi, Anan Karimi ?
Beaucoup d'indignation déjà, parce que par exemple sur Rosa Parks, elle parle de Rosa Parks, ça a été une célébration internationale d'une figure politique de résistance. Et aujourd'hui, elle parle des Rosa Parks, du burkini, eh bien le fait de refuser qu'on ferme une place, qu'on interdise une place et prendre cette place, c'est une démarche politique à la Rosa Parks, effectivement.
Peut-être pour recontextualiser, donc elle fait référence à ces femmes musulmanes qui sont venues s'imposer dans une piscine de Grenoble qui leur a été interdite en raison du burkini, donc du maillot de bain à voile intégré qu'elle voulait porter et qui a évidemment fait éclater une énorme polémique médiatique.
Oui, mais une polémique qui est récurrente sur ce discours politique très hégémonique qui implique l'invisibilité sociale des pratiques des femmes musulmanes. Hein, on ne parle pas d'autres femmes, on parle bien des femmes musulmanes qui portent le foulard. Et en fait, ce qui m'étonne, et je peux dire même qui me choque dans ce discours, mais aujourd'hui, ça ne devrait plus me choquer, après plus de 30 ans de débats sur le voile, c'est la portée très normative de son discours. Donc de quelqu'un qui se voudrait progressiste, sans doute, qui se voudrait contre... on parle d'islam politique, bon, des femmes en burkini sur une plage ou à la piscine, l'islam politique, à mon avis, il est pas très content de leur volonté de se mélanger. Comme elle le dit, il y a une incohérence. Eh bien, justement, c'est-à-dire que si ces femmes-là, d'ailleurs j'ai vu des photos de ces collectifs qui sont avec des femmes en bikini, qui sont avec des hommes, etc., disent « moi c'est comme ça que je veux nager » et que c'est finalement c'est des habits de bain qui en Allemagne, moi j'habite Strasbourg, donc très proche de l'Allemagne, où il y a des gens qui sont topless et des gens qui sont complètement couverts, ça pose pas de problème. Donc le prétexte hygiéniste, dans l'histoire on sait ce que ça a provoqué, mais du coup oui, c'est ça qui se cache derrière, c'est aussi cette volonté complètement d'exclure socialement dans les espaces publics des femmes qu'on ne veut pas voir. Et donc finalement il y a résistance, et c'est justement le propos de mon travail de thèse qui a été d'aller regarder au-delà de ces polémiques et de les analyser, de décortiquer le message politique qui est derrière et ce que ce message politique fait aux femmes.
Moi, ce qui me choque aussi dans la façon dont tu as décrit, c'est l'espèce de côté un peu surplombant, comme si elles étaient ridicules. Il y a un espèce de vocabulaire un peu moqueur, alors que c'est une action politique flamboyante, courageuse, visible. Enfin voilà, je trouve qu'il y a une dimension extrêmement raciste, en fait, dans la façon aussi de percevoir l'action de ces femmes.
Pour moi, il n'y a pas de différence entre la manière de moquer ces femmes et ce qu'on a pu voir, par exemple, il y a une copine tunisienne qui me racontait qu'en Tunisie, celle qui était en burkini, bah des fois, elle est issue d'une classe bourgeoise, donc elle me disait quand elle s'approchait de l'espace qui est un peu bourgeois à la plage, eh bien, elles étaient huées, etc. Et en même temps, ce qui s'est passé un été au Maroc, il me semble que c'était l'année dernière, justement, où est née le hashtag Ntarajel, est-ce que t'es un homme, parce que les hommes interdisaient aux femmes d'aller à la plage en bikini. Bah finalement, pour moi, à chaque fois qu'on contrôle le corps des femmes, que ça soit parce qu'il est dévêtu ou trop vêtu, que ce soit parce qu'on se dit progressiste ou laïque ou qu'on se dit islamiste, eh bien, revêt la même logique d'action qui est celle de contrôler le corps des femmes.
Et vous combattez les deux côtés. Nous allons explorer avec vous, Anan Karimi, tous les éclairages que la sociologie a pu apporter au mouvement féministe, ce qu'elle vous a apporté à vous. Nous y croiserons Christine Delphi, Fatima Mernissi ou encore Angela Davis. Mais en attendant, je veux sortir avec un rappeur. Enfin, pas moi, le groupe Alice et moi.
Je veux sortir avec un rappeur. Je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur. On irait sur son scooter. Ouais, un mec acéré, ouais, un bec, on serait tous les deux animés d'amour, mais dominé par la vie détournée et l'envie d'être aimé. Je veux un mec qui écrit, qui s'éclate et se grille les tympans doucement, plutôt que d'écouter ce nom qui le fait chier, cette monotonie qui le quitte que la nuit quand je viens dans son lit. Je veux sortir avec un rappeur, je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur, on irait sur son scooter à 100 à l'heure. Ce serait moi et le rappeur, auteur et en scooter, quand nous deux managers parleraient de nos nerfs, de nos vers, notre nervosité, notre animosité. On serait détestés, des tests de société, et tous nos abonnés voudraient nous rencontrer, car on aurait bossé comme des fous alliés, aliénés par nos sons, nos rêves et la pression, l'impression d'une fièvre, une hallucination. Je veux sortir avec un rappeur, je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur, on irait sur son scooter à 100 à l'heure. Et on se ferait des vannes sur l'album d'Orelsen, qui serait bien mieux que le sien, mais on rirait pour rien. Peu à peu il serait oublié, et Nekfeu lui dirait: t'as trop déconné, quitte cette fille de la pop, trouve-toi d'autres salopes. Moi je serai dans le mal, dans les bras de l'âme pâle, à nouveau entraînée dans la vie détournée. Et Roméo ou Alice me dirait: ouais Alice, il est temps de rentrer. Je veux sortir avec un rappeur, je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur, on irait sur son scooter à 100 à l'heure. Je veux sortir avec un rappeur, je connaîtrai tout son flow, ses mots par cœur. Je veux sortir avec un rappeur, on irait sur son scooter à 100 à l'heure.
Vous êtes donc sociologue, Anan Karimi, et vous faites partie de ce mouvement au sein de l'université en France et dans le monde qui apporte une réflexion sur les dominations de genre, de classe et de race dans cette discipline. C'est encore une lutte en France pour qu'émergent ces questionnements et cette vague qu'on qualifie parfois d'universitaire décoloniale. Mais la Sorbonne Paris 1 vient d'annoncer l'ouverture d'un master en gender studies à la rentrée, porté notamment par Sandra Logier, et qui devrait explorer ces questions. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Oui, c'est une très bonne nouvelle qui vient un peu nuancer l'état d'esprit un peu inquiet que nous avons. Enfin, quand je dis nous, c'est tous les chercheuses et les chercheurs qui travaillent sur le genre, parce qu'il y a des postes qui sont pas renouvelés, il y a des changements de dénomination, de diplôme. Et Paris 8 fait déjà un diplôme sur le genre. À l'EHUSS, l'École des hautes études en sciences sociales, il y a également un master en genre. Et donc, en fait, que ça se multiplie, c'est une très bonne nouvelle, oui.
Est-ce que vous pensez, on connaît l'état de l'université en France, on sait qu'il y a eu beaucoup de mouvements, de contestations ces derniers trimestres dans les universités françaises. Est-ce que vous avez l'impression que le manque de moyens va affecter peut-être en priorité ces lieux-là où on porte peut-être un discours plus engagé, plus politique, plus contestataire du pouvoir en place ?
Je pense que ça va être difficile, en fait, dans la dimension d'institutionnalisation, en tout cas de régulation de ce genre de recherche scientifique. C'est ça qui va être difficile, parce que, du coup, vous parliez du fait que les gender studies ou les études sur le genre sont décriées en France. En fait, c'est un mouvement très, très minoritaire hein, au sein de l'université française. Le savoir dominant reste encore un savoir très peu poreux de tout ce qui est normal et très même formel. Que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, je pense notamment aux ethnical studies, aux post-colonial studies aussi. Enfin, il y a énormément de filières. Alors en France, on a la chance quand même d'avoir eu des recherches féministes très fortes qui se sont imposées et qui sont un courant avec des grandes figures de la recherche française dans l'université. Et ça, c'est quand même quelque chose de salutaire dans ce contexte national.
Mais c'est pas encore le grand complot du genre que s'est vertu à dénoncer certaines, une presse un peu conservatrice. Alors dans ce courant sociologique qui prend ses racines chez Bourdieu, chez Foucault, chez Deleuze, dans toutes les théories post-constructivistes, on emploie souvent la notion de dominé, dominant, que vous avez d'ailleurs employé déjà dans cette émission à plusieurs reprises. La sociologue Beverly Skeggs, qui vous inspire beaucoup dans votre travail, dit que par exemple la respectabilité, c'est le fardeau des dominés, c'est la préoccupation de ceux qui sont censés en manquer. Parler de dominant, de dominé, c'est un discours qui peut choquer, qui est souvent mal compris. Alors, est-ce que l'enseignante que vous êtes peut l'expliquer pour le commun des mortels ?
Oui, alors la question de la domination, elle est multiple. Hein. On peut parler de, comme l'a fait Pierre Bourdieu, de domination masculine dans des sociétés qui sont réceptrice et héritière d'une domination patriarcale, finalement, héritée de la religion, hein, qu'elle soit catholique, musulmane ou juive, un peu moins protestante, il y a quand même plus de mouvements chez les protestants. Et donc, la domination, elle peut être multiple, elle peut être sexuelle, elle peut être raciale, évidemment. On peut pas, aujourd'hui, raisonnablement dire qu'en France, il n'y a pas de racisme. Et toutes les études scientifiques, sociologiques, statistiques le montrent. Quand on est un homme ou une femme noire en France, eh bien, l'accès au travail, l'accès au logement, etc. est beaucoup plus compliqué, même dans les parcours de soins. Donc, la domination, c'est ça. La domination, c'est quand il y a une culture, quand il y a un groupe qui est majoritaire, dont la culture est dominante, qui devient le référent, la référence, et donc qui ne pense pas le minoritaire. Et le minoritaire, c'est aussi un critère qui enferme les individus dans des identités bien spécifiques et bien marginales pour qu'ils ne soient pas solubles dans ce qu'on pourrait appeler le corps national. Et du coup, c'est toujours des personnes qui restent minoritaires. Donc les minorités, quand on parle de minorité ou de diversité, eh bien, il faut s'interroger de ce que recouvrent ces termes. Eh bien, c'est bien d'individus qui sont dominés de par le fait d'avoir été construits comme des populations autres et minoritaires.
Ce que je trouve dans la notion de respectabilité, qui est le fardeau des dominés, cette phrase que j'ai tirée en fait de votre thèse, j'aime bien cette notion où on comprend que le dominé a la responsabilité de finalement s'adapter au monde qui l'entoure, et que le dominant a peut-être le privilège de ne pas avoir à se préoccuper de la façon dont le monde dans lequel il évolue l'accueille en fait.
Absolument. Moi, ce qui m'a beaucoup séduit dans le travail de Beverly's Cakes, et je remercie mon amie et collègue Solène Joanneau de m'avoir indiqué ce travail. Beverly's Cakes, c'est une sociologue qui a fait un travail très long, plus de 8 années, il me semble que c'est même 10 années, sur des femmes de classe ouvrière qui sont dans du travail du care, donc du soin à la personne, et qui dévaluent leur culture d'origine, et en fait qui incorpore complètement la norme dominante qui est de dire que leur culture est moindre, leur culture est un fardeau, et donc qui entre dans une quête de respectabilité qui implique donc déjà cette dévalorisation, mais aussi l'effort physique, mental, de se coller au code de la culture dominante pour pouvoir être respecté.
Ne serait-ce qu'accepter, en fait, l'existence.
Pour être reconnu. Voilà, ouais. Et donc, je lis cette question de la quête de respectabilité, qui était pour moi essentielle dans mon travail de thèse, parce qu'on parle de femmes de classe ouvrière. Et j'ai travaillé sur des femmes d'origine maghrébine, issues de l'immigration maghrébine, qui sont majoritairement issues de la classe ouvrière aussi. Et en fait, c'est aussi un pied de nez qui n'était pas central, c'était pas le but, mais de dire que ce travail qui est fait, vous parliez du décolonial et dans mon cas plus du postcolonial, c'est-à-dire de ce qui reste de la colonialité du pouvoir dans les rapports entre les groupes sociaux, de dire en fait on ne peut pas oublier la classe sociale. Et oublier la classe sociale, pour une sociologue ça serait pas possible déjà, oublier la classe sociale, ce serait complètement faire l'inverse de ce qu'un sociologue, un très grand sociologue a fait, Abdelmalek Sayed, grand sociologue de l'immigration, qui disait ne pas penser les individus dans leurs conditions sociales d'existence, c'est finalement aller dans la démarche culturaliste de dire ils sont autres parce qu'ils sont maghrébins, ils sont autres parce qu'ils sont musulmans. Alors qu'on pourrait expliquer comment on le fait pour la classe ouvrière, comment on le fait pour des études même sur les classes supérieures, des conditions sociales d'existence qui sont déterminantes dans la construction sociale des individus, dans leur parcours, dans leur perspective, dans les ressources qu'ils ont. Et c'est tout le travail que j'ai fait, donc d'allier la quête de respectabilité en disant ce sont des femmes issues de la classe ouvrière d'abord, donc de réinscrire ces femmes au-delà de leurs simples croyances, parce que souvent on les enferme là-dedans.
Dans une religion, même au-delà d'une origine géographique ou nationale.
Absolument. Selon, voilà. Et qui devrait à elle seule tout expliquer et en tant que sociologue, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, que je ne peux pas prendre comme un préalable. Et moi, mon préalable, c'est de dire, allons plus loin et réinscrivons ces femmes dans leurs conditions sociales d'existence, de naissance, de sexe, d'origine ethnique, qui est fondamentale hein, dans leur parcours sociaux, dans leurs rapports sociaux également, et également de dire ce que la croyance vient faire dans tout ça, finalement. Et en cela, le travail d'Abdelmalek Sayed m'a beaucoup aidé parce que, pour lui, la relation à la religion fait partie, la ressource religieuse fait partie du retournement du stigmate qui vient dire quelque chose du rapport au pouvoir.
Ce qu'on comprend en vous écoutant, c'est que voilà, il y a un entremêlement en fait de la classe, du genre et de la race. C'est une notion qui est à l'origine du mouvement féministe intersectionnel. Et on va écouter l'une des voix les plus grandes d'incarnant ce mouvement.
I would have preferred the election of Hillary Clinton.
J'aurais préféré qu'Hillary Clinton soit élue, mais elle n'était pas une candidate que je pouvais soutenir véritablement.
First of all, because of her ties to corporate capitalism.
À cause de ses liens avec le capitalisme et de son incapacité à comprendre l'importance des nouvelles formes du féminisme. Elle s'appuie sur une vision dépassée du féminisme, fondée sur l'idée que les femmes seraient, sans le dire, considérées comme blanches et issues de la classe moyenne. C'est une conception bourgeoise du féminisme qui n'a pas parlé à la majorité des gens et encore moins à la majorité des femmes. Les féministes les plus vivantes et les plus vibrantes aujourd'hui sont celles qui luttent contre le racisme, le capitalisme et l'homophobie et qui sont internationalistes ou de tendance marxiste. Hillary Clinton aurait pu apprendre beaucoup de la notion d'intersectionnalité.
C'était la voix de l'immense Angela Davis, interviewée par Mediapart en novembre 2016, qui commentait l'obsolescence du féminisme incarné par Hillary Clinton. Qu'est-ce que la pensée héritée du mouvement afroféministe a apporté à la sociologie engagée que vous représentez aujourd'hui ?
Un apport déterminant même pour les féministes historiques qui ont institué ce savoir à l'université, parce que il y avait déjà une grande longueur d'avance dans leur analyse. Du fait que les africaines-américaines, les féministes africaines-américaines sont ancrées sur le territoire depuis fort longtemps, avec une histoire plus longue, alors que en France, on va dire que les vagues de post-coloniales sont arrivées beaucoup plus tard. Mais en tout cas, Angela Davis, par exemple, quand elle parle de ce féminisme bourgeois, eh bien, elle dit quelque chose qu'elle a dit dès les années 70-80, c'est-à-dire que le féminisme universaliste, en fait, quand elle dit bourgeois, c'est ça qu'elle dit, ne se pense pas, et on revient sur la question de la domination, c'est-à-dire que le dominant, il n'a pas besoin de se penser, parce qu'il est la référence. Donc, on pense une catégorie, qu'elle dit, de femmes. Comme si la catégorie de femmes, des femmes, la classe des femmes, dirons-nous en France, allait de soi. Alors que dans la classe des femmes, il y a des femmes très différentes, et il y a des femmes, parmi la classe des femmes, qui sont disqualifiées par d'autres femmes. Et c'est tout ce qu'on a vu, par exemple, avec la question du foulard en France, où des femmes, finalement, excluaient d'autres femmes de la catégorie des femmes. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que pour ces femmes-là, on ne se bat pas, que ces femmes-là, on les exclut, et donc on reproduit finalement une domination qui est très proche de la domination patriarcale ici, qui est une domination matriarcale et qui donc ne parle pas de toutes les femmes. Et quand elle dit le seul féminisme qui compte aujourd'hui, en tout cas qui
serait porteur d'avenir,
d'avenir, c'est l'antiraciste, anticapitaliste, c'est celui qui pense justement de la place du minoritaire, de la marge et pas du centre. Le centre, c'est un point de vue qui est erroné, tout comme ne parler que de la marge sans prendre en compte le centre, est un point de vue qui est erroné. Et encore une fois, quand je dis que le dominant ne se pense pas, eh bien, c'est la même chose dans le savoir scientifique, sociologique et autres. Quand on parle du point de vue du dominant, quand on est une personne qui est au centre, qui fait des analyses sociologiques et autres, et qu'on ne se pense pas, eh bien, à mon sens, on fait également erreur. Mais ça, il n'y a personne pour le dire. C'est plus compliqué.
Voilà, en somme toute, on voit bien mieux depuis les places du fond.
انت جوزك يما انت
C'était Dame, Enta, Jazak, Yama.
France Inter. Les savantes. Lorraine Bastide.
Anan Karimi, votre parcours personnel étant lui-même très riche en enseignements sociologiques, vous avez grandi dans la banlieue de Troyes, en Champagne-Ardenne, dans une famille nombreuse d'origine marocaine. Et je crois que très tôt, vous prenez le goût du texte grâce à votre maman, qui est une passionnée de théologie.
Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant hein, ce moment de mon parcours où moi-même je me situe socialement et je me rends compte que je suis en train de suivre quelque chose d'une trajectoire sociologique prédéterminée. Je me dis en fait non, j'ai envie d'être un électron libre et donc je me remets à bosser. Mais oui, très tôt, la seule de ma famille, d'une famille de 7 enfants, comme vous dites, une famille nombreuse, la troisième de la fratrie, qui accède à la ressource littéraire en fait. Alors que, voilà, dans notre culture populaire, immigrée, mes parents n'ont pas fait d'études et c'est pas quelque chose qui va de soi. Je suis pas entourée de livres, sauf que ma mère, effectivement, est passionnée de théologie, donc lit souvent. Elle se pose sur son tapis de prière, par exemple, et lit le Coran le vendredi. Et je pense que ça m'a marqué quelque part de la voir, elle qui était toujours affairée à faire à manger, à s'occuper de ses 7 enfants, à faire le ménage, à avoir ce moment de paix.
Ouais.
Et donc je pense que ça m'a marqué et que très vite, aujourd'hui la maman que je suis vous dirait que c'est pas vite en 6e ou en 5e de commencer à lire, mais c'est jamais trop tard. Je fréquentais le CDI pendant les heures de pause au collège. J'allais à la bibliothèque municipale parce que il y avait très peu de loisirs dans mon quartier populaire de la Chapelle Saint-Luc. À l'époque, on habitait à la Chapelle Saint-Luc dans une commune de Troyes. Et quand on s'enferme dans une bibliothèque municipale, on feuillette longtemps les livres et on finit par les lire. Donc j'ai craqué pour les livres et j'ai découvert des univers qui ne m'étaient pas offerts de là où j'étais, de là où je vivais, et qui m'ont beaucoup enchantée en fait.
Et vous découvrez aussi la puissance du texte en réalité, c'est ça que je trouve intéressant aussi, le parallèle entre la lecture d'un texte religieux et d'un texte universitaire. Finalement c'est la même possibilité aussi d'être à l'intérieur de soi, de s'arrêter un instant.
Ouais, le pouvoir des mots est assez hallucinant dans ce qu'il permet, dans ce qu'il permet de déconstruire également et de comprendre sur nous-mêmes et sur la société. Et effectivement, c'est quelque chose moi qui me fait rêver encore aujourd'hui. J'espère un jour pouvoir y arriver. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect pour mon travail et l'écriture très exigeante scientifique, mais je reste quand même très fascinée par le pouvoir des romans et des mots qui nous font voyager.
Donc vous êtes une collégienne, puis une lycéenne brillante, qui aime lire, qui aime apprendre, et pourtant à 19 ans, vous êtes obligée d'abandonner vos études, parce que le voile que vous portez alors n'est plus le bienvenu dans le lycée où vous faites alors un BTS. On est à l'époque de la circulaire Bayrou, qui ouvre le grand cycle de harcèlement contre les femmes musulmanes, qui ne s'arrêtera pas, qui est encore en train de se poursuivre aujourd'hui. Est-ce que cette obligation en fait d'abandonner le lycée à cause de votre voile, ça a été un premier choc politique ?
Ça a été mon choc politique, que j'ai pas conscientisé tout de suite, parce que j'étais pas politisée du tout, en fait. Hein. Je me situe, hein. Comme je vous le disais, hein, je sais d'où je viens, et je sais qu'il n'y avait pas de ressources politiques chez moi. Mon père n'était pas syndiqué, on parlait très peu de politique à la maison. Et donc, j'ai pas tout de suite une lecture politique de ce qui m'arrive, mais un fort sentiment d'injustice. Un très fort sentiment d'injustice qui me pousse à quitter ce lycée, parce que J'ai l'impression qu'on m'a trahi, en fait. Alors aujourd'hui, je pourrais le déconstruire largement, hein, ce sentiment-là, mais j'ai l'impression qu'en fait, tout ce qu'on m'a appris en termes de droits de l'homme, de respect des croyances, etc., etc., en fait, était une duperie. Et ça m'indigne. Ça m'indigne fortement, sauf que je me recroqueville, renferme complètement dans la sphère domestique. Et puis finalement, ça fait son chemin, ça met du temps, hein, mais ça fait son chemin et... deuxième choc politique, si je peux anticiper en fait le parcours, c'est donc là on est en 99, hein, en 1999 quand je quitte le BTS dans lequel je suis.
Donc vous vous mariez, vous faites des enfants et vous devenez mère au foyer.
Mère au foyer, ouais. Une mère au foyer très très occupée. J'ai cette défiance vis-à-vis de l'institution scolaire, pas n'importe laquelle, hein. C'est-à-dire que j'ai une défiance vis-à-vis de la territorialisation de l'offre scolaire. Et j'en ai conscience, donc je suis déjà un peu sociologue dans l'âme, et je me dis, je ne vais pas offrir ça à mes enfants, parce que je sais très bien, comme le logement qu'on m'avait offert, dans un quartier très très précarisé, et je me disais, ben, on va offrir en fait l'équivalent à mon enfant, donc je décide de garder ma fille à la maison, et je lui fais l'école à la maison jusqu'en CM1. Donc je lui apprends à lire, à compter, et puis j'ouvre d'autres horizons botaniques, etc., etc. Et après ça, arrive en 2005 les émeutes urbaines à la suite de la mort de Ziad Ebouna. Et là, j'ai un choc de mémoire. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vient se réveiller et qui me donne envie d'écrire. Donc je commence l'écriture d'un roman qui n'aboutira jamais, mais qui me pousse à faire des recherches dans lesquelles je mets en écho un jeune de banlieue et son père pendant la guerre d'Algérie ou de son grand-père pendant la guerre d'Algérie. Je montre en fait les similitudes dans leur indignation, dans leur révolte, dans leur cri de colère.
Et ce sentiment d'injustice que vous décriviez tout à l'heure, que vous avez ressenti au moment de votre expulsion, enfin voilà, votre départ forcé, disons, du lycée, c'est encore cette injustice-là qui se réveille en vous?
Alors c'est l'injustice, mais aussi la certitude que je ne sais pas d'où je viens, que je ne connais pas mon histoire. C'est ça qui me pousse finalement à rechercher justement ce qui va devenir mon chemin vers la sociologie, les conditions d'arrivée, les conditions de l'émigration, de qui nous sommes finalement, pour savoir qui nous sommes au temps présent, qui nous étions et qui nous sommes. Et ça m'inscrit finalement assez naturellement, j'allais dire, vers la sociologie.
Et donc vous vous réinscrivez à la fac, d'abord par correspondance, vous reprenez vos études de sociologie, et un beau jour, vous rentrez de la fac, vous avez lu un livre, et là c'est un nouveau déclic, celui-là il sera sans retour. Est-ce que vous pouvez me raconter cet épisode qui est quand même celui que je préfère dans votre biographie?
Oui. Alors, c'est un samedi matin, j'ai des partiels, je suis en licence 2 à l'époque, j'ai des partiels, dont un partiel sur la sociologie de la famille, et donc je révise le paquet de cours que j'ai imprimé sur la répartition inégale des tâches domestiques, sur la charge mentale, etc., etc., donc. Parfait, je découvre. Oui, je découvre. En tout cas, j'apprends le cours.
Comme quelle est la théorie pour expliquer ce que vous saviez déjà, en fait.
Je comprends très bien les concepts. Et puis, je rentre à la maison. Et j'avais laissé mes enfants, mes trois enfants, avec leur papa à l'époque, qui sont en bas âge. Et je découvre, en rentrant à 13h, donc je suis partie 3h, la poubelle à l'entrée, mes enfants en train de courir dans l'appartement en pyjama, le repas qui n'est pas pensé. Et là, je vois le cours défiler sous mes yeux.
C'est ça.
Et je crois que j'ai fait une grande crise. Mon ex-mari n'a pas dû comprendre ce qui m'arrivait. Mais là, d'un coup, il y avait quelque chose qui m'apparaissait et qui expliquait aussi pourquoi je fais en fait autant d'efforts pour pouvoir prendre que 3 heures pour travailler ces cours. Et être en fait, je ne vais pas dire que c'est de l'esclavage moderne, mais en fait, les femmes elles-mêmes incorporent, nous femmes, nous incorporons des injonctions et des disponibilités. On doit être, pour être une bonne mère, une bonne femme, il faut être disponible, il faut préparer à manger et tout ça. Mais pourquoi? À qui sert cet épuisement personnel et cet effacement, cette abnégation dans laquelle j'étais personnelle? Et là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe, et c'est ma rencontre aussi avec le féminisme qui fait qu'on prend un aller sans retour.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, on rencontre aussi dans cette histoire une notion qui revient souvent en féminisme, la notion que le personnel est politique. C'est-à-dire que quand on parle de sociologie des femmes, finalement, en étant une femme, en ayant ce point de vue-là, la simple observation de son quotidien, de ce qu'on peut vivre comme discrimination dans l'espace public ou dans l'espace domestique, finalement, finalement nourri la réflexion théorique et vice-versa.
Oui, non, mais absolument. C'est-à-dire que le privé est politique. Parce que je ne suis pas une seule femme qui a vécu ça, mais je suis une femme qui a adopté tel comportement, et en fait on pourrait faire des typologies de comportement des femmes, sauf celles qui ont refusé tout ce carcan et qui se sont inscrites dans une logique de lesbianisme radical ou de queerness, mais on pourrait en faire une typologie. En fait, je pense que quand on est une femme, on échappe très rarement à ces injonctions et à ce préformatage, en fait, ce formatage intellectuel qui s'inscrit dans nos corps et dans nos êtres et dans nos lectures et dans nos aptitudes que nous déployons tout au cours de nos vies et auxquelles on n'essaye pas forcément d'y échapper. Soit on s'en émancipe parce qu'on fait des belles rencontres, parce qu'on est conscientisé d'une manière ou d'une autre par un film ou autre lors de nos vies, ou soit finalement on continue à reproduire ces dispositifs.
Alors ce sac poubelle oublié par votre ex-mari devant la porte vous a quand même conduit au doctorat en sociologie, donc finalement il a eu sa fonction, mais il vous conduit aussi vers une autre forme de travail féministe qui est un travail beaucoup plus militant. Vous devenez quelques années plus tard porte-parole du collectif Les Femmes dans la Mosquée. Un groupe politique s'est attaché en 2013 à dénoncer les mesures discriminantes pour les femmes prises par la Grande Mosquée de Paris, notamment une décision visant à les isoler dans un sous-sol pour prier, pour qu'elles soient évidemment plus tranquilles. Vous organisez avec une dizaine d'autres femmes une manifestation qui d'ailleurs dégénère un peu, tourne un peu au pugilat. Est-ce qu'aujourd'hui cette partie de l'action politique, cette action qui passe par la manifestation, par la mobilisation, par les groupes, vous la pratiquez encore, ou est-ce que ce militantisme aujourd'hui passe plus par la recherche ?
Je suis passée par là, je pense que c'était une nécessité en fait, c'est-à-dire que dans le collectif, il y a un pouvoir. Le pouvoir, c'est ce qu'Axel Honneth emprunte à Richard Sennett du concept et de la notion de contre-culture du respect. C'est comment on crée dans le nous, comment on rend possible l'émergence du je, J-E, de l'individualité, tout en s'inscrivant, en fait, en ayant des solidarités, en ayant un respect qui répond au mépris social, évidemment. Qui rend possible finalement quelque chose de très puissant, qui est le jeu dans le nous, parce que le jeu ne se pense pas sans nous, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités agissantes, c'est-à-dire, en tout cas, c'est ce qui a été le collectif Les Femmes dans la Mosquée, c'est-à-dire que c'est venu appuyer là, quelque part, où les mots n'étaient pas posés sur cette réalité, en tout cas en France, et qui a fait finalement des ondes concentriques. Alors ça a été nécessaire en 2013, et peut-être qu'aujourd'hui, la femme que je suis dirait qu'il fallait pas faire comme ça, mais je pense que ça avait son importance à ce moment-là, parce que ça a eu des effets concrets sur d'autres femmes, sur d'autres hommes. Mais aujourd'hui, oui, moi, je suis dans quelque chose de plus... j'allais dire que le militantisme fatigue beaucoup.
Ouais. On a déjà eu l'occasion de parler de cet épisode ensemble, et vous m'avez souvent décrit ça comme un moment où vous étiez aussi tout un petit peu amatrice, quoi. Vous n'aviez aucune d'entre vous jamais eu d'expérience syndicale, ou et qu'en fait vous pensiez que ça allait être quelque chose peut-être de joyeux, de et que finalement vous vous attendiez pas à vous prendre une telle violence, une telle riposte en fait dans la figure en retour.
Oui, c'est ça. C'est que ça crée beaucoup à la fois on reçoit beaucoup de violence, mais une posture qui est complètement d'isolement, qui est complètement insupportable et intenable dans le temps. Donc moi aujourd'hui non, je m'inscris plus du tout dans ces formes de militantisme, mais plus dans un savoir engagé. Un savoir engagé parce que si je suis autant attaquée par certains journalistes et par certaines personnes, même dans l'université, c'est bien parce que ce que je dis dérange, ou en tout cas les dérange, et je pense que j'ai toute ma légitimité de savante, j'allais dire, pour reprendre le titre de l'émission.
On va maintenant écouter la voix d'une autre grande sociologue française, Christine Delphi.
Je pense qu'on peut être une femme qui porte le foulard et être féministe. Être féministe, mais être aussi beaucoup d'autres choses. Être antiraciste, être révoltée contre le sort fait aux populations d'origine, disons, maghrébine ou plus largement arabe ou de culture musulmane, et trouver dans le port du foulard des choses différentes, ne serait-ce que l'affirmation ne serait-ce que ce qu'on appelle la revendication du stigmate.
Alors Christine Delfier fait partie des féministes de la deuxième vague, celle des années 70, mais elle incarne un mouvement très minoritaire dans le féminisme français, qui est plutôt universaliste. Alors on retombe sur ces mêmes idées d'entrecroisement, de domination. Je voulais qu'on l'entende aujourd'hui parce que il me semble qu'il est très compliqué en France que oui, il est possible d'être féministe et de porter le voile. Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait pour que les gens comprennent que cette réalité existe?
Je pense qu'on les laisse se prendre la réalité en pleine figure. Enfin, je veux dire, ces femmes-là existent. Les enfermer dans une posture surplombante et très normative, comme on a entendu en début d'émission, dans l'incompatibilité, l'impossibilité d'être à la fois féministe et à la fois habillée la norme religieuse, bah, c'est oublier que la personne qui le dit, ça se trouve, et très sûrement, a complètement intégré, a habillé complètement la norme patriarcale, et je rentrerai pas dans les détails parce que ça parle tout seul, et tout en se disant féministe, et ça passe, et pas l'autre. Et Christine Delfi, et c'est tout le travail qu'elle fait dans la politique de la piété, elle montre qu'à partir de l'habitation des normes, eh bien en fait, il y a des chemins d'émancipation qui se dessinent. Là, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de plus sensible, d'imperceptible. Aller au-delà, en fait, des évidences et aller à la place de, c'est-à-dire essayer de voir ce qui résonne d'un côté et de l'autre pour pouvoir faire du commun.
Ce que je trouve intéressant de voir, c'est Christine Delfi qui est sur le terrain depuis presque 60 ans, enfin 50 ans en tout cas, a réussi à faire ce chemin-là et pourrait complètement éclairer d'autres femmes de sa génération pour qu'elles les suivent dans cette voie, quoi.
Mais Christine Delfi, qui est une amie et une femme que j'apprécie particulièrement, l'a fait parce que justement, elle est partie aux États-Unis et qu'elle a rencontré des féministes africaines-américaines et qu'elle a suivi les luttes d'émancipation de ces populations qui lui ont permis de penser qui elle est et que sont les failles du féminisme français, par exemple.
I know that I got bad habits. Trying to find a balance, I'm in the store like I wanna have it, I gotta have it. You are not the toughest or baddest, my pet is the maddest. I probably any caboose and it's never right of malice. Gas never lane, even on 10, and still they can't manage. They think I'm a shy one, like nah, Sims won't flip. But when I switch, then they wanna say that I'm a b-
with my chest and I don't care who I offend. Uh-huh. How?
Anan Karimi, vous avez soutenu en septembre 2018 votre thèse intitulée « Assignation à l'altérité radicale et chemin d'émancipation, étude de l'agency de femmes musulmanes françaises » sous la direction d'Anne-Sophie Lamine. Une thèse, c'est un travail énorme en soi, mais quand il renvoie à une réalité vécue, est-ce que c'est plus difficile humainement ?
Ah oui, 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 mais j'allais dire que quand vous me posez cette question, tout de suite me vient à l'esprit que de toute façon, être une femme appartenant à un groupe minoritaire, c'est déjà coûteux, quel que soit le travail qu'on fait. Alors, être une femme issue d'un groupe minoritaire, engagée dans un travail intellectuel de déconstruction sociologique et politique de ce qui se passe pour des femmes du même groupe, alors c'est très coûteux. C'est coûteux parce que je suis une femme qui est issue de la classe ouvrière et qui avait une énorme pression d'accomplir, de réaliser ce rêve que j'ai depuis très jeune d'être docteur. Et donc, j'ai senti des blocages très concrets en termes d'écriture, par exemple, qui renvoyaient à des choses que j'analysais pourtant dans ma thèse,
qui était
l'illégitimité sous toutes ses formes, que beaucoup de femmes connaissent, et que de là où j'étais, moi, ça avait des incidences multiples, biographiques aussi, parce que c'est là où je divorce aussi. Et donc, je complique encore plus mon chemin d'aboutissement final à devenir docteur. Mais j'y crois, c'est une aspiration très profonde que j'ai et pour laquelle j'ai trouvé de vraies solidarités et piliers.
Notamment celui d'Anne-Sophie Lamine, votre directrice de thèse, qui a fait preuve d'une solidarité qu'on pourrait peut-être même qualifier de sororité.
Ouais, c'est ça. Anne-Sophie Lamine, qui est aujourd'hui une collègue avec laquelle je travaille sur d'autres recherches, a eu cette sensibilité. Donc, je parlais par exemple de mon divorce. Donc, c'est une femme qui a su m'accompagner, en tout cas accompagner ma recherche à ces moments-là, sans m'en demander trop et en respectant ce que je traversais au niveau familial, tout en continuant à m'encourager et à me faire confiance. Elle a été d'un soutien inestimable.
Jusqu'à la soutenance qui a été un moment incroyable, avec un public nombreux, votre famille présente. Oui. Je crois que vous en avez gardé une grande émotion.
Oui, ça a été une très, très belle soutenance. Déjà, alors que j'avais pas rendu l'événement public, il y avait au moins 80 personnes dans la salle, dans la petite salle de Sciences Po Strasbourg, et qui ont été émues. Enfin, j'ai eu des amis qui étaient là comme si c'était un jour de fête, qui veulent célébrer ça tous les ans parce que à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé de elle l'a rendu possible. Et pour ça, je vais vous donner une anecdote. Il y a une femme qui est venue à ma soutenance de thèse que je ne connaissais pas, qui m'a demandé si elle avait le droit d'y assister. Je lui ai dit oui, c'est une journaliste qui a assisté et qui, à la fin, quand on m'a dit « vous êtes docteur, nous vous déclarons docteur », s'est mise à pleurer. Et je l'ai regardée un peu surprise en disant « mais en fait, je comprends pas ». Et elle est venue m'expliquer après, elle m'a appelée une semaine après en me disant qu'en fait, c'était son rêve de faire une thèse et qu'elle s'était inscrite en thèse. Wow. Donc ça, ce truc de rendre possible, c'est quelque chose qui a porté les femmes de mon public, d'ailleurs c'est un public essentiellement féminin aussi, avec un jury essentiellement féminin, mais il faut que je le dise parce que c'est important aussi, un jury exclusivement masculin ne choque pas.
Et alors qu'un jury féminin, on va le souligner.
On peut me le reprocher.
Évidemment.
Alors que moi, j'ai assisté à des soutenances de thèse où le jury était exclusivement masculin. Dans l'autre sens, c'est tout de suite un peu dérangeant. Mais c'était quelque chose qui, pour moi, avait du sens, parce qu'elles sont toutes des femmes très brillantes et qu'elles ont su lire mon travail avec une très grande générosité déjà, une très grande expertise, et donc qui m'ont poussée encore plus loin dans le travail qui va arriver après.
Je voulais qu'on commence par la description de ce moment de gloire, de flamboyance que vous avez connu avec cette thèse, parce que finalement, cette histoire qui vous est personnelle éclaire la notion centrale de votre mémoire, la notion d'agency, donc un concept théorisé par l'anthropologue pakistano-américaine Saba Mahmoud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ce concept signifie? C'est quoi l'agency?
Eh bien, l'agency, pour Saba Mahmoud, c'est quelque chose qu'on va trouver dans les actes de résistance aux normes, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi dans les multiples manières d'habiter les normes. Et l'agency ne peut être comprise que depuis, et n'est réalisable que parce qu'il y a subordination. Et c'est par exemple l'un des résultats centraux de ma thèse, c'est-à-dire que à un moment donné, à force de faire mes terrains, très concrètement, c'est-à-dire aller rencontrer des gens, mais avant de les rencontrer, les identifier, faire des observations, par exemple quand on est dans des collectifs de lutte, donc ça veut dire assister aux assemblées générales, assister aux discussions, voir les points clivants, les ponts qui se créent, etc., etc. Enfin voilà, un vrai travail, j'allais dire, scientifique, en tout cas en termes de méthode.
Et d'enquête hein, même. D'ailleurs, votre terrain, précisons-le, hein, vous avez rencontré 50 femmes, essentiellement des jeunes femmes de 25 à 40 ans, issues de l'immigration maghrébine, de la seconde génération, de classe ouvrière, non politisée, à Lyon, Paris, Lille et Strasbourg.
Merci pour la précision, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je suis allée chercher ces espaces-là, voilà. Et à un moment donné, c'est quand même quelque chose qui m'a saisie, c'est-à-dire que la résistance, celle que j'observais, hein, celle que moi je définis comme agency, n'était possible que parce qu'il y avait subordination, parce qu'il y avait domination. Et donc ça, c'était quelque chose en me disant, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a domination, il n'y a pas de conscientisation, il n'y a pas... Eh bien, il y a moins de conscientisation, parce qu'il y a moins de confrontation brutale avec une autre référence, hein, ici, qui serait la culture dominante, et donc qui nous pousse moins dans ce que j'allais dire de l'introspection, et c'est un peu comme si toutes ces femmes avaient été poussées au maximum jusqu'à devoir inventer des moyens de résistance, qu'ils soient politiques, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient religieux, mais à un moment donné de saturation en disant maintenant on ne peut pas ne rien faire. Donc c'est aussi un chemin d'émancipation possible dans la trajectoire des femmes que j'ai rencontrées.
Et permet de retrouver cette capacité à agir, hein, qui est un peu la façon dont on pourrait traduire approximativement en français ce mot de agency, la faculté d'agir.
C'est la définition que je préfère, la capacité d'agir, parce que c'est une capacité, presque une compétence. En tout cas, on le voit par exemple sur l'un de mes terrains, j'ai analysé les collectifs de résistance citoyenne, comme Maman Toutes Égales, donc qui sont des femmes qui résistent contre l'exclusion des mères accompagnatrices aux sorties scolaires et qui ne sont pas politisées, comme vous l'avez rappelé, et qui vont recevoir certaines ressources d'autres personnes, des registres d'action qu'on étudie, analyse très bien en sciences politiques. Et en fait, ces ressources vont circuler à l'intérieur des espaces du groupe. Alors, pas seulement ici politique, c'est des registres qu'on va retrouver, par exemple, chez les collectifs de féministes musulmanes qui se sont, finalement, emparés, appropriés les outils qu'on leur a donnés dans la lutte politique de résistance citoyenne, qui se sont appropriés la méthodologie et qui l'ont appliquée ailleurs. Donc, ça implique des circulations de répertoires d'actions très, très intéressantes et qui rendent finalement ces chemins mouvants, dynamiques et à chaque fois très, très puissants.
Vous avez parlé de ce collectif qui s'appelait donc
Maman Toutes Égales.
Maman Toutes Égales. Et cette idée de vouloir exclure les femmes musulmanes portant le voile de l'accompagnement des sorties scolaires est malheureusement un serpent de mer qui a réémergé très récemment à l'Assemblée nationale. On parlait d'un amendement qui a été adopté, puis heureusement retoqué par le Sénat. Moi, quand je vois ce genre de loi non seulement être proposée, puis adoptée, je pense à cette notion présente dans votre travail aussi, celle d'altérité radicale. Est-ce que pour vous, on est là-dedans quand on fait ça?
Oui, complètement. Complètement. L'altérité radicale. Alors, il y a plein de sociologues qui ont travaillé là-dessus. Je renvoie notamment aux travaux de Sarah Mazouz, qui, elle, s'est intéressée aux cérémonies d'intégration, en tout cas de naturalisation, donc d'accès à la nationalité française, dans lesquelles elle révèle des frontières intérieures. Hein, c'est-à-dire que même dans les cérémonies, il y a le renvoi à votre culture, à votre ailleurs. Maintenant, vous allez devoir montrer que... Et donc, elle montre qu'il y a des frontières intérieures et que moi, j'explique à travers l'héritage de la condition d'immigré, avec la sociologie d'Abdelmalek Sayad, qui finalement est quelque chose qui colle au corps des descendants, je dis descendants très naturellement, tout le monde comprendra, de l'immigration maghrébine, parce qu'ils ne sont pas encore désignés comme Français à part entière, et qu'on a besoin de les situer pour dire « Ah oui, d'accord, en fait c'est des Français, pas des Français comme les autres, d'accord ?» Donc dès qu'il y a un petit problème... qui serait lié au goût ou à la socialisation pour d'autres personnes, eh bien pour ces personnes-là qui sont renvoyées à la culture. Et il y a la création d'une altérité radicale, et dans ce cas-là, la religion vient renforcer cette altérisation racialisante. Finalement, l'altérité radicale, c'est quoi? C'est Sarah Mazouz qui utilise le terme altérité racialisante parce que c'est une altérité qui dit la race, c'est un critère de différenciation sociale. C'est comment on fait de la différence sociale à partir de traits phénotypiques. Eh bien là, c'est pas des traits phénotypiques, mais en tout cas, c'est des pratiques qui...
Une façon de se vêtir, tout simplement.
Tout simplement, qui construisent une catégorie inassimilable, presque de manière épidermique, pour ceux qui sont contre, et qui expliquent, on l'entend dans les discours politiques, donc c'est très clair, c'est pas quelque chose qui a besoin d'aller chercher très loin, mais de renvoi à l'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on fait ici. C'est pas comme ça qu'on fait en France. Sauf que ces femmes, elles sont nées en France, elles sont allées à l'école publique, elles ont été socialisées en France, et dans un processus de retournement du stigmate, que faire de mieux que de revendiquer cette identité qui est disqualifiée socialement et la porter fièrement? Donc qui engage finalement ces femmes dans des luttes politiques pleines d'enseignements, ne serait-ce que pour les alliances qu'elles permettent. Par exemple, dès le début, on parlait de Christine Delphi, mais dès le début, les collectifs de lesbiennes se sont montrés solidaires pour rendre justement disponibles leurs ressources politiques, leur manière de faire aux femmes qui étaient exclues. Et ça, ça crée des ponts qui sont aujourd'hui des passerelles incroyables. Ouais.
On retombe sur cette notion fondamentale de sororité, vous incarnez merveilleusement, Anane Karimi.
Merci.
Merci beaucoup pour votre présence dans Les Savantes.
Merci, Lorraine.
Toutes les informations concernant l'émission sont à retrouver sur le site franceinter.fr. Vous pouvez y réécouter l'émission en ligne et bien sûr la podcaster avec votre application préférée. Cette émission a été réalisée par Coy Nguyen et préparée par Perrine Malinge avec l'aide de Marie Contrerat à la documentation. Aujourd'hui à la technique, Grégory Wallon et à la programmation musicale, Jean-Baptiste Dibert. Merci beaucoup d'avoir accompagné ce rendez-vous des savantes. À dimanche prochain avec l'économiste Julia Cagé.